Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Les gilets jaunes, le retour, point d'interrogation, un an après le début d'un mouvement inédit dans l'histoire des luttes sociales. Les gilets jaunes comptent sur ce jour anniversaire pour trouver un second souffle. De multiples appels à manifester ont été lancés partout à travers le pays, notamment sur les ronds-points, comme ce fut le cas le 17 novembre 2018. À Paris, de nombreux rassemblements, dont deux étaient déclarés, se sont organisés dès ce matin, notamment place d'Italie. De nombreux quartiers restent interdits aux manifestants, dont une quarantaine ont déjà été interpellés par les forces de l'ordre. Le point complet dans un instant. Pendant ce temps, la Convention citoyenne a entendu ce matin l'une des figures des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski, venue débattre notamment de la taxe carbone. Et à propos d'écologie, pas d'avantages fiscaux pour l'huile de palme. L'amendement qui visait à repousser son exclusion de la liste des biocarburants a finalement été rejeté après avoir été adopté la veille au soir. Dans ce journal également, des manifestations également à l'étranger, à Hong Kong, comme tous les samedis. Une manifestation anti-Johnson en Angleterre dans son fief d'Uxbridge. Israël qui frappe le Hamas à Gaza après avoir frappé le djihad islamique. 145 000 foyers toujours privés d'électricité dans le sud-est. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange aux pluies et inondations. Et puis le dernier album des Tindersticks en conseil culture pour le week-end. L'un de leurs meilleurs, si l'on en croit Mathieu Culeron.
France Inter.
Plus d'une quarantaine d'interpellations à Paris. La journée anniversaire des Gilets jaunes a commencé de façon très tendue ce matin dans la capitale où plusieurs rassemblements se sont constitués simultanément, dont deux seulement avaient été déclarés. Comme à l'habitude, les points névralgiques, Champs-Élysées, Concorde, Tour Eiffel, mais aussi le quartier des grands magasins ont été interdits aux manifestations. En tout, plus de 270 actions ont été annoncées sur les réseaux sociaux tout ce week-end à travers le pays. On va y revenir. D'abord, à Paris, où les autorités craignaient un retour en force des ultra-jaunes et de l'ultra-gauche, les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre. Plus de 1500 contrôles préventifs déjà effectués ce matin. Rémi Brancato, vous avez suivi les manifestants partis ce matin de la porte Champéret après quelques échauffourées.
Oui, cette manifestation, c'est l'une des deux déclarées dans la capitale, Yves. Elle se déroule dans le calme, arrivée place de Clichy. Elle doit ensuite se diriger vers la place de la République, puis gare d'Austerlitz. Ce matin, elle a débuté avec de l'agitation, une intrusion de quelques minutes seulement sur le périphérique pour quelques dizaines de manifestants, rapidement délogés par les forces de l'ordre. Brigitte, au chômage, observe depuis le pont.
Ils ont bloqué le périph, c'est magnifique. Ça montre que les gilets jaunes, un an après, sont toujours là, la preuve. Je suis gilet jaune depuis le 17 novembre 2018 et on lâchera rien.
Sur les gilets jaunes, justement, on peut lire des messages. Joyeux anniversaire, Pascal, parisien, entend marquer le coup. Il estime ne jamais avoir été entendu depuis un an.
C'est sincèrement, c'est comme les Restos du cœur. L'échec, c'est que ça existe toujours. Les gilets jaunes, c'est l'échec. Un an après, ça existe toujours. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été fait. On est en train de discuter, on fait rien, il n'y a rien qui bouge. Je sais pas pourquoi ça gaze.
Je comprends pas pourquoi on commence comme ça, quoi, à gazer les gens gratuitement.
Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes, porte de Champéret, avant que le cortège s'élance finalement dans le calme, avec toujours les mêmes slogans. Valérie, venue de Normandie pour la première fois dans la capitale. L'an passé, elle était sur un rond-point.
C'est la première fois que je manifeste, je suis vraiment quelqu'un qui râle même pas en voiture, qui paye mes impôts. On est obligé de budgéter pour manger, on est obligé de budgéter pour faire de l'essence dans la voiture. On n'a pas de solution.
Car c'est toujours cette revendication de justice sociale et de pouvoir d'achat qui revient, comme l'an passé, dans le discours des Gilets jaunes.
Rémi Brancato avec Arthur Gerbeau. La préfecture de police a fait fermer une vingtaine de stations de métro et de RER dans Paris. Plusieurs lignes de bus sont également susceptibles d'être déviées ou limitées. Joyeux anniversaire ont donc chanté ce matin les premiers gilets jaunes, rassemblés porte de Champéret à Paris, pendant que place d'Italie, quelques palettes étaient incendiées. Mais cet acte 53 marque surtout le premier anniversaire de la révolte des ronds-points. On s'en souvient, c'est sur les ronds-points de tout le pays que la protestation qui visait les taxes sur le carburant s'était organisée principalement. Et c'est sur les ronds-points que beaucoup de manifestants se sont donné rendez-vous en ce jour anniversaire. Exemple à Muret, près de Toulouse, Stéphane Iglesias.
Nous battons contre la misère, la précarité et la pauvreté, a expliqué il y a quelques minutes un représentant des Gilets jaunes de Muret. Selon lui, le président de la République est sourd aux revendications des Gilets jaunes. Jacqueline est sur ce rond-point dans la banlieue de Toulouse depuis un an. Elle est agent de propreté dans le civil.
Pour ça, ma mère elle a 83 ans, je ne l'amène pas en ville parce que c'est dangereux pour elle. Et je ne me décourage pas. Ils peuvent me faire de répression, ils peuvent m'arrêter. Je continuerai mon combat. Je trouve outré ce qu'ils sont en train de nous faire, le gouvernement. Par la chose, je vois qu'ils ne cèdent rien et moi je ne céderai pas non plus. Je ne lâcherai rien.
Quant à Eric, il déplore lui que depuis un an, rien n'ait changé. Il est artisan.
Les choses n'évoluent pas et nous, on veut que les choses s'améliorent. On veut pas de... On veut rester... On veut que ce soit humain, quoi, que la France soit humaine, hein, tout simplement. On ne veut pas cette oligarchie, ces gens qui pensent qu'à l'argent. Nous, on a envie que l'humain ait sa place dans le monde et dans la France, surtout, quoi, chez nous. Quoi. Et surtout, je voudrais qu'on ne nous prenne pas pour des numéros et qu'on prenne soin des gens et de la vie, et qu'on respecte les choses. Quoi.
Les manifestants vont déjeuner ensemble sur ce rond-point, puis pour certains, rejoindre le défilé toulousain en début d'après-midi. Muret, Stéphanie Glaizis, France Inter.
Comme à Muret, de nombreux manifestants sont rassemblés en Savoie, devant la mairie d'Albertville, au rond-point des Prés d'Arène à Montpellier, devant le tribunal de Périgueux, la gare de Guéret, le rond-point du Grand Mail à Dax. À Dax, même chose à Clermont, Besançon, Caen. Des rassemblements sont également annoncés à certains péages d'autoroute du côté d'Avignon, entre autres. Et pendant ce temps, avant d'aller manifester ce matin, l'une des figures des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski, planchait devant la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui sont réunis ce week-end pour la troisième fois et continuent de consulter tous azimuts avant de présenter leurs propositions normalement au mois de janvier prochain. Ce matin, quel symbole ! Ils avaient donc invité à s'exprimer celle qui fut à l'origine d'une pétition contre la hausse des prix des carburants. L'inverse, a priori, de ce que prônent les écologistes, mais pas si simple. Sixtine Lys, vous avez assisté aux échanges de la matinée.
Oui, Priscilla Ludowski, particulièrement satisfaite de pouvoir être dans la rue à cet instant avec les milliers de manifestants, mais aussi de débattre ce matin, d'échanger avec des citoyens et des experts.
J'ai toujours été un peu sur différents types d'actions, passer des manifs aux actes de désobéissance civile, aux conférences, aux débats. C'est jamais la même manière de faire passer les messages, c'est jamais le même public qui est en face. C'est important de combiner tout ça parce que quand on est dans des luttes, une forme d'action ne suffit pas, malheureusement, parce qu'on est obligé d'être un peu sur tous les fronts pour se faire entendre, quoi.
Le sujet du jour, les transports. Priscilla Ludowski, bousculée sur la question de la taxe carbone, pardon. Elle conseille au groupe de travail un organe de contrôle pour mieux la surveiller et s'assurer qu'elle soit bien appliquée auprès des gros pollueurs notamment. Une participante rétorque que la majorité du groupe est contre cette taxe. Priscilla Ludowski se défend, elle n'est pas là pour la vendre, simplement pour présenter des idées. À la fin, ce sera à eux de décider.
Je pense qu'ils ont déjà contribué à changer le regard qu'on a sur les institutions, parce que c'est quand même inédit que des personnes soient sollicitées, et même si c'est l'initiative du gouvernement et que c'est quelque chose qu'on a impulsé, il n'empêche que maintenant ça existe et que peut-être ce sera quelque chose qui sera à reproduire. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. La parole du citoyen compte un peu plus qu'avant, j'ai l'impression.
La parole de ces 150 citoyens, leurs conclusions seront présentées au gouvernement en janvier.
Sixtine Lys avec Benjamin Chauvin au Conseil économique, social et environnemental. À propos d'écologie, 58 voix contre, 2 voix seulement pour. L'amendement controversé sur la fiscalité de l'huile de palme a finalement été rejeté par les députés présents en séance. Le même texte adopté dans un premier temps la veille au soir à la Sauvette et sans débat avait provoqué la colère de nombreux élus et associations. Le Premier ministre avait donc demandé un nouveau vote précédé cette fois d'un débat et le résultat le voilà. L'huile de palme ne sera pas réintégrée dans la liste des biocarburants bénéficiant d'avantages fiscaux, ce dont se félicite le député Modem Bruno Millienne, qui refuse en revanche de montrer du doigt les lobbyistes du groupe Total.
Tout le monde fait du lobbying. Les ONG écologistes font le même lobbying, même peut-être plus important que le lobbying de Total. Et tant mieux, c'est aussi comme ça que nous, les députés, on apprend. On n'est pas omniscient. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, on n'a pas le savoir universel. Donc nous, c'est important aussi de pouvoir rencontrer des lobbies contradictoires pour nous faire des idées précises sur ce qu'on doit adopter ou pas en fonction de nos connaissances et des connaissances qu'ils nous donnent en plus. Ça, c'est important. Donc le terme lobby, il est galvaudé en France. C'est pas, pour moi, c'est pas des lobbies, c'est des gens qui viennent défendre leur boutique et c'est normal. Quand une ONG environnementale vient nous rencontrer, c'est bien pour défendre sa boutique qu'elle vient nous rencontrer. Alors évidemment, vis-à-vis du grand public, l'ONG environnementale a une aura bien plus supérieure que celle de Total. Arrêtez avec le poids des lobbies. Tout le monde fait du lobbying à l'Assemblée nationale.
le député Millienne au micro de Justine Leclerc. L'association France Nature Environnement félicite les députés qui se sont opposés à cet amendement, tout en espérant que la justice, elle, ira plus loin, en remettant en cause l'arrêté préfectoral qui avait autorisé l'exploitation de la raffinerie de la Med près de Marseille par Total, un site approvisionné en grande partie par de l'huile de palme. Deux militants de l'ultra-droite mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et placés en détention provisoire, deux hommes âgés de 30 et 45 ans suspectés de préparer un attentat contre Emmanuel Macron. Ils avaient été interpellés le 11 novembre en Moselle et leur domicile perquisitionné. Et puis à Sevran, une marche blanche en ce moment même en souvenir d'Oliver. La famille du jeune homme de 17 ans dont le corps a été retrouvé jeudi près de Tours avait appelé à marcher jusqu'à Noisy-le-Sec où Oliver avait disparu 10 jours plus tôt après une rixe sur les bords du canal de Lourdes. Que deux de ses agresseurs présumés seront présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour séquestration avec acte de torture et de barbarie. Un adolescent de 17 ans, soupçonné d'être lui aussi impliqué dans le meurtre, a déjà été écroué.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
En Israël, changement de cible pour l'armée ce matin après la frappe qui visait en début de semaine un commandant du djihad islamique à Gaza. Des raids aériens ont ciblé des positions du Hamas en riposte, selon Tsahal, à des tirs de roquettes venus de cette zone. Marinane Vlaovic nous appelle de Gaza.
Malgré le cessez-le-feu en vigueur, des roquettes palestiniennes ont été tirées la nuit dernière sur la ville israélienne de Beersheva. Des tirs non revendiqués, mais seules deux organisations ont la capacité d'envoyer des roquettes de cette portée, le djihad islamique et le Hamas. Ce dernier a donc été la cible de raids israéliens ce matin. Des positions militaires ont été touchées. L'État hébreu qui pointe le Hamas du doigt rompt ainsi une alliance de circonstances inédites établie cette semaine avec son meilleur ennemi. Bien décidé à maintenir le calme, le mouvement islamiste s'est tenu à l'écart de l'escalade militaire en réussissant jusqu'ici à être épargné. La balle est désormais dans le camp du Hamas qui a condamné ce matin une agression israélienne. En cas de réplique, le cessez-le-feu sera alors définitivement mort et enterré. Mais la vie reprend son cours dans une bande de Gaza qui a vécu en quasi-léthargie une bonne partie de la semaine. Les supermarchés et les boutiques font le plein. Objectif, se réapprovisionner en cas de nouvel épisode de violence. Gaza, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
En Syrie, 14 morts, dont 9 civils ce matin au nord-est du pays. Explosion survenue dans un lieu de rassemblement de taxis et de bus dans la ville d'Al-Bab, qui est sous contrôle de l'armée turque depuis 2 ans. Une journée de manifestation également à Londres. Ce sont les anti-Johnson qui mobilisent aujourd'hui dans le fief du Premier ministre à Uxbridge, la ville dont Johnson est le député depuis 2015. À un mois des législatives anticipées du 12 décembre, il devrait être entendu d'ailleurs, puisque à Uxbridge, on n'a pas forcément apprécié le parachutage de Bojo il y a 4 ans, Antoine Gignot.
Le sujet qui fâche localement, c'est l'agrandissement de l'aéroport d'Heathrow et la construction d'une ligne à grande vitesse validée par Boris Johnson. Vania habite juste à côté des pistes.
Je sais que ça va créer plus d'emplois, mais ça suffit. Il y a déjà tellement de pollution, pourquoi en rajouter? Sinon, on ne peut pas dire qu'il ait fait grand-chose ici. Il est resté focalisé sur le Brexit et c'est tout.
Ce manque d'action, de projets visibles, c'est aussi ce que retient Jace, retraité d'Uxbridge.
Il y a un suppléant chargé de représenter Boris Johnson et on le voit plus souvent que le vrai Boris Johnson. Je le trouve pas intéressé, pas conscient de la réalité de la vie des gens. Et il a divisé le pays. Il y a une augmentation des crimes racistes. Ici, il y a un jeune qui a été poignardé vendredi dernier à 4h30 de l'après-midi.
Mais juste à côté, Andrew, contrôleur de gestion, intervient. Le développement économique promis par Boris Johnson, il y croit, à condition de lui laisser le temps.
Il n'est député d'Oxbridge que depuis 2015. La politique britannique, c'est un enjeu national plus qu'un enjeu local et il va probablement faire quelque chose.
Andrew s'interrompt un instant et précise, défaitiste, il ne pense pas que Boris Johnson va arriver à réunir une majorité. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
À Hong Kong, des samedis qui se suivent et se ressemblent. Après une semaine de chaos, le mouvement de contestation se poursuit. Les étudiants continuent d'occuper certaines universités. La circulation reste perturbée. Une manifestation se tient aujourd'hui dans le quartier d'affaires. Dominique André.
Le défilé de la Gay Pride à Hong Kong a été interdit. Il s'est transformé en rassemblement aujourd'hui dans un quartier d'affaires désert où les boutiques sont fermées après une semaine de chaos. Des étudiants habillés en noir, le visage caché par un masque, chantent l'hymne hongkongais aux côtés de militants de la cause homosexuelle. Le combat est le même pour tous. Alice, une étudiante de l'université chinoise de Hong Kong, est là. Les étudiants ont cessé d'occuper le campus la nuit dernière.
La police est venue près de mon université. L'université chinoise de Hong Kong, les étudiants ont choisi de quitter les lieux pour aller sur d'autres campus. Je ne suis pas tranquille, car le gouvernement chinois et Xi Jinping ont dit qu'il fallait rétablir l'ordre et améliorer la situation. Et Carrie Lam a dit la même chose.
Le mouvement de contestation se poursuit dans un climat étrange. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des soldats de l'armée populaire de libération, l'armée chinoise, nettoyer les rues. Entre soutien et fatigue, les Hongkongais ne voient pas de solution tant le dialogue paraît impossible entre le gouvernement et le camp pro-démocratique. Hong Kong, Dominique André, France Inter.
À noter que les anti-contestataires mobilisent également. Plusieurs centaines d'entre eux se sont rassemblés pour dénoncer des manifestants de plus en plus violents et apporter leur soutien aux forces de l'ordre. Des inquiétudes pour Venise après une marée haute historique, la plus forte depuis 53 ans. La cité des Doges sous les eaux a été placée aujourd'hui en alerte rouge au vent violent. L'état d'urgence a été déclaré. 20 millions d'euros débloqués par le gouvernement pour les interventions urgentes. La place Saint-Marc est fermée. Une cinquantaine d'églises au minimum ont été endommagées. Inondation historique dont on peut voir les photos sur franceinter.fr. En France, 145 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans le sud-est. La Drôme, l'Isère, l'Ardèche, le Rhône, la Loire, département où la neige est tombée en abondance depuis jeudi. Et le ciel y reste très bas, ce qui ne facilite pas la tâche des agents d'Enedis. 2000 agents mobilisés pour réparer. Robin de Vaugelaire, le directeur de la communication d'Enedis, au téléphone de Marc Bertrand.
Les équipes d'urgence d'Enedis et les partenaires ont d'ores et déjà réalimenté un client sur deux. Et dès que les accès ont été libérés, nous avons pu nous rendre sur les zones où il y avait des câbles à terre, des branches dans nos ouvrages électriques. Donc ça avance très vite, il y a eu un gros travail réalisé. En revanche, le ciel est très bas, on n'a pas les autorisations pour faire décoller les hélicoptères. Et donc ça peut ralentir le travail parce que vous n'avez pas un diagnostic global. Alors, en attendant de pouvoir le faire avec les hélicoptères, nous allons le faire avec les drones. On espère vraiment de grosses avancées sur cette journée. Pour nous, elle est stratégique parce qu'on peut accéder en fait à nos ouvrages.
Voilà, par ailleurs, dans le sud-ouest, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont placés en vigilance orange aux pluies et inondations. On fait le point dans un instant avec Jean-Michel Golinski. D'abord, un nouvel album studio des Tindersticks. Les fans du groupe anglais apprécieront. 11e album très sobre, souvent piano-voix seulement, et qui permet au chanteur Stuart Staples d'explorer de nouveaux univers. C'est, selon Mathieu Culeron, l'un de leurs meilleurs disques.
Give me something to eat.
Pour leur retour en studio, les Tindersticks ont scrupuleusement respecté leur cahier des charges. Dépouillement musical et légèreté de surface, un disque à part dans la carrière du chanteur Stuart Staples.
L'idée était de faire quelque chose de frais et de spontané, très à l'écart de la technologie. Le titre emblématique du disque était « The Amputees ». J'ai écrit les mots comme de la poésie, ce que je ne fais jamais d'ordinaire. On a travaillé à partir de ça. C'était contagieux, énergique et chaleureux.
Si No Treasure But Hope est un album dans sa forme plus aérien et moins sombre que les précédents, les thèmes continuent de creuser là où ça fait mal. La voix de Stuart est toujours aussi envoûtante, lui qui ne s'est jamais considéré comme un chanteur.
J'avais 15 ans quand je suis entré dans le monde de la musique et la liberté y était omniprésente. Des groupes comme Joy Division permettaient à des gens comme moi de rêver, de pouvoir s'exprimer sans être un grand chanteur.
Le dernier album des Tindersticks est un petit bijou, une source de lumière dans un océan de mélancolie.
Les Tindersticks Thunderstick, conseil week-end de Mathieu Culeron, avec aussi parmi les recommandations du service culture pour ce week-end, pour les amoureux de bande dessinée, on rappelle la sortie d'un nouveau volume des aventures de Largo Winch, 2 ans après l'étoile du matin, voici les voiles écarlates, toujours chez Dupuis, signé du tandem Philippe Frang et Eric Giacometti, et puis 2 concerts exceptionnels à signaler, concert exceptionnel de Sarah Vaughan, la divine, à écouter ce soir et demain à 18h sur France Musique, dans le cadre d'un cycle consacré aux légendes du jazz, réalisé avec les archives de l'INA. Sarah Vaughan, l'incomparable. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Une instabilité marquée cet après-midi, parfois mêlée d'orages entre le sud-ouest et le massif central, donnant de fortes quantités de précipitations sur le sud de l'Aquitaine en vigilance orange, de la neige à partir de 500 mètres sur le Limousin, 900 sur les Pyrénées. Sur la Corse, les averses parfois mêlées d'orages vont se renforcer en soirée. Sur le reste du pays, ciel plutôt chargé, ponctué de pluies faibles, avec un peu de neige sur les Alpes à partir de 800 mètres. Dans des températures de 14 degrés en moyenne près de la Méditerranée, de 10 dans le sud-ouest et de 7 plus au nord. Demain, le vent va souffler vers 80 km à l'heure sur le bassin de la Méditerranée, dégageant le ciel de la Provence, du Languedoc et du Roussillon. Des averses marquées vont toucher la face occidentale de la Corse. En lien avec les températures de 0 à moins 3 degrés, il va neiger à basse altitude le matin des Vosges aux Alpes. Il y aura toujours pas mal de pluie au sud de la Garonne. Sur les autres régions, temps sec, mais souvent chargé, avec des gelées vers 0 à moins 2 degrés dans la moitié nord.